Eugène Fromentin, une année dans le Sahel. Chapitre 1, Mustapha d'Alger. Mustapha d'Alger, 27 octobre 1852. J'ai quitté la France il y a 2 jours, comme je te l'écrivais de Marseille en fermant ma lettre par un adieu, et déjà je t'écris d'Afrique. J'arrive aujourd'hui, 27 octobre, amené par un grand vent du nord-ouest, le seul, je crois, qu'Ulysse n'eût pas enfermé dans ses outres, le même auquel aîné sacrifia une brebis blanche, celui qu'on appelait Zéphyr, joli nom pour un très vilain vent. On l'appelle aujourd'hui Mistral. Ah, il en est ainsi, hélas, de tous les souvenirs laissés dans ces parages héroïques par les odyssées grecques et latines. Les choses restent, mais la mythologie des voyages a disparu. La géographie politique a fait 3 îles espagnoles des 3 corps du monstrueux Gérion. La vitesse a supprimé jusqu'aux aventures. Tout est plus simple, plus direct, pas du tout fabuleux et beaucoup moins charmant. La science a détrôné la poésie. L'homme a substitué sa propre force au dieu jaloux et nous voyageons orgueilleusement mais assez tristement dans la prose. La mer est ce qu'elle était. On peut dire d'elle tout le bien et tout le mal possible, car elle est encore la plus belle, la plus bleue et peut-être la plus perfide des mers du monde. « Mare saeum », disait Salluste, la mer cruelle, qui ne faisait plus de métaphores et déjà parlait en historien des mots orageux qui le conduisaient à son gouvernement d'Afrique. Ainsi, 46 heures à peu près de Fort Ouli, un trajet trop long pour le plaisir qu'on y trouve, trop court pour le temps de s'habituer à la mer, de s'y attacher et de voir changer les spectacles. L'ennui du séjour à bord, l'incommodité d'être bercé dans un lit mouvant comme par une nourrice en colère, autour de soi des scènes d'hôpital, au dehors des ondes grisâtres, un ciel grisâtre, de longues nuits obscures malgré les étoiles, 2 journées blafardes malgré un vif soleil, un horizon confus, des dimensions douteuses à cause du point de vue placé trop bas, ni grandeur ni beauté, des îles qui fuyaient dans le brouillard, des oiseaux qui venaient nous visiter au passage comme des sentinelles insulaires chargées d'apprendre qui nous étions, d'autres, comme nous, frileux émigrants, qui fuyaient l'hiver et nous devançaient de toute la légèreté de leurs ailes, d'autres encore, mais en petit nombre, qui croisaient notre route, remontaient au nord et naviguaient presque à fleur d'eau avec des peines inouïes. 1 ou 2 voiles à l'horizon qui se balançaient sur des collines écumeuses, un grand bruit de vent dans les voiles, de roues déchirant la mer, de balanciers frappant à coups redoublés dans les entrailles du navire. Voilà, pour ne rien omettre, le bulletin de ce court voyage, un des moins héroïques à coup sûr, qui ait été accompli sur cette mer fameuse. Ce matin même, à 9 heures, 42 heures après avoir salué les côtes à demi africaines de Provence, et 3 heures avant d'être au port, on voyait la terre. Le premier sommet qu'on aperçoit, c'est le vieux Atlas. Puis se présente la tête un peu plus voisine de la Bouzaréa, puis Alger, un triangle blanchâtre sur des plateaux verts. À midi précis, l'ancre tomba sous les coups de la glande de la marine et dans des eaux paisibles. Il faisait chaud. Le vent ne soufflait plus. La mer était d'un bleu sombre, le ciel net et très coloré. Je ne sais quelle odeur de bain-joint remplissait l'air. Nous entrions dans un climat nouveau et je reconnaissais cette ville charmante à son odeur. 1 heure après, je roulais sur la route de Mustapha et mon ancien ami, le voiturier Slimane, hasard m'avait fait rencontrer à la porte de la mairie, m'arrêtait devant une petite maison carrée, blanche et sans toiture. J'étais chez moi. Ma première étape est donc achevée. Je viens à Alger comme au plus près, car c'est ainsi que j'entends l'immigration. J'ai passé l'été dernier en Provence, dans un pays qui prépare à celui-ci et le fait désirer. Des eaux sereines, un ciel exquis, et presque la vive lumière de l'Orient. Je ne suis pas fâché de m'arrêter, les pieds sur la vraie terre arabe, mais à l'autre bord seulement de la mer qui me sépare de la France, et face à face avec le pays que je quitte. En attendant que je me déplace, je cherche un titre à ce journal. Peut-être l'appellerons-nous plus tard « journal de voyage ». Aujourd'hui, soyons modestes et nommons-le tout simplement « journal d'un absent ». Cette lettre, mon ami, ne partira pas seule. Je viens de moment même de t'envoyer un message. C'est un oiseau que j'ai recueilli en route et que j'ai ramené jusqu'ici comme un compagnon, le seul à bord dont l'intimité me fut agréable et qui fut discret. Peut-être oubliera-t-il que je l'ai sauvé du naufrage pour se souvenir seulement d'avoir été mon prisonnier. Il est entré dans ma cabine hier au soir à la tombée de la nuit par le hublot que j'avais ouvert pendant une courte embellie. Il était à demi-mort de fatigue. De lui-même, il vint se réfugier dans ma main, tant il avait peur de cette vaste mer sans limite et sans point d'appui. Je l'ai nourri comme j'ai pu, de pain qu'il n'aimait guère, et de mouches auxquelles toute la nuit j'ai donné la chasse. C'est un rouge-gorge, de tous les oiseaux peut-être le plus familier, le plus humble, le plus intéressant par sa faiblesse, son vol court et ses goûts sédentaires. Où donc allait-il dans cette saison? Il retournait en France. Il revenait peut-être. Sans doute, il avait son but comme j'ai le mien. Connais-tu, lui ai-je dit, avant de le rendre à sa destinée, avant de le remettre au vent qui l'emporte, à la mer à qui je le confie, connais-tu, sur une côte où j'aurais pu te voir, un village blanc, dans un pays pâle où l'absinthe amère croît jusqu'au bord des champs? Connais-tu une maison silencieuse et souvent fermée, une allée de tilleuls où l'on marche peu, des sentiers sous un bois grêle où les feuilles mortes s'amassent de bonheur et dont les oiseaux de ton espèce font leur séjour d'automne et d'hiver? Si tu connais ce pays, cette maison champêtre qui est la mienne, retourne-y, ne fût-ce que pour un jour, et porte de mes nouvelles à ceux qui sont restés. Je le posai sous ma fenêtre, il hésita. Je l'aidai de la main. Alors il ouvrit brusquement ses ailes. Le vent du soir qui soufflait de la terre le décida sans doute à partir, et je le vis s'élancer en droite ligne vers le nord. Adieu, mon ami, adieu, pour ce soir du moins. Je commence une absence dont je ne veux pas encore déterminer la durée. Mais sois tranquille, je ne viens pas au pays des lotophages pour manger le fruit qui fait oublier la patrie. Mustapha, 5 novembre. À tous ceux qui me croient un voyageur, tu laisseras en effet supposer que je voyage et tu diras que je pars. Si l'on demande où je vais, tu répondras que je suis en Afrique. C'est un mot magique qui prête aux conjectures et qui fait rêver les amateurs de découvertes. À toi, je puis bien avec humilité dire le fait comme il est. Ce pays me plaît, il me suffit, et pour le moment je n'irai pas plus loin que Mustapha d'Alger, c'est-à-dire à deux pas de la plage où le bateau m'a débarqué. Je veux essayer du « chez moi » sur cette terre étrangère, où jusqu'à présent je n'ai fait que passer, dans les auberges, dans les caravansérails ou sous la tente, changeant tantôt de demeure et tantôt de bivouac, campant toujours, arrivant et partant dans la mobilité du provisoire et en pèlerin. Cette fois, je viens y vivre et l'habiter. C'est à mon avis le meilleur moyen de beaucoup connaître en voyant peu, et de bien voir en observant souvent. De voyager, cependant, mais comme on assiste à un spectacle. en laissant les tableaux changeants se renouveler d'eux-mêmes autour d'un point de vue fixe et d'une existence immobile. Je verrai s'écouler toute une année peut-être, et je saurai comment les saisons se succèdent dans ce bienheureux climat qu'on dit inaltérable. J'y prendrai des habitudes qui seront autant de liens plus étroits pour m'attacher à l'intimité des lieux. Je veux y planter mes souvenirs comme on plante un arbre, afin de demeurer de près ou de loin enraciné dans cette terre d'adoption. À quoi bon multiplier les souvenirs, accumuler les faits, courir après les curiosités inédites, s'embarrasser de nomenclatures, d'itinéraires et de listes. Le monde extérieur est comme un dictionnaire. C'est un livre rempli de répétitions et de synonymes. Beaucoup de mots équivalents pour la même idée. Les idées sont simples, les formes multiples. C'est à nous de choisir et de résumer. Quant aux endroits célèbres, je les compare à des locutions rares, luxe inutile dont le langage humain peut se priver sans y perdre rien. J'ai fait autrefois 200 lieues pour aller vivre un mois, qui durera toujours, dans un bois de dattiers sans nom, presque inconnu, et je suis passé à 2 heures de galop du tombeau numide de Syphax, sans me détourner de mon chemin. Tout est dans tout. Pourquoi le résumé des pays algériens ne tiendrait-il pas dans le petit espace encadré par ma fenêtre, et ne puis-je espérer voir le peuple arabe défiler sous mes yeux par la grande route ou dans les prairies qui bordent mon jardin? Ici, comme à l'ordinaire, je trace un cercle autour de ma maison, je l'étends jusqu'où il faut pour que le monde entier soit à peu près contenu dans ses limites, et alors je me retire au fond de mon univers. Tout converge au centre que j'habite, et l'imprévu vient m'y chercher. Ai-je tort ? Je ne le crois pas, car cette méthode, raisonnable ou non, donne aussitôt le plus grand calme, en promettant des loisirs sans bornes, et fait considérer les choses d'un regard paisible, plus attentif, pour ainsi dire accoutumé dès le premier jour. Il faut donc que tu saches que je réside à 35 minutes d'Alger, assez loin de la ville, mais pas tout à fait en plein champ, et que je puis d'ici voir planter sur la colline entre 2 cyprès la tour municipale de ma marine. La maison que j'habite est charmante. Elle est posée comme un observatoire entre les coteaux et le rivage et domine un horizon merveilleux. À gauche, Alger. À droite, tout le bassin du golfe jusqu'au cap Matifou qui s'indique par un point grisâtre entre le ciel et l'eau. Et en face de moi, la mer. Je découvre ainsi tout un côté du Sahel et tout le Hamma, c'est-à-dire une longue terrasse boisée semée de maisons turques et doucement inclinées vers le golfe. Une petite plaine, étroite et longue comme un ruban, la rattache au rivage. C'est un pays de bocage, fertile, humide, presque partout marécageux. On y voit des prairies, des vergers de culture, des fermes, des maisons de plaisance aux toits plats, aux murs blanchis, des casernes transformées en métairies, d'anciens forts devenus des villages, le tout sillonné de routes, clairsemé de bouquets d'arbres et découpé par d'innombrables haies de cactus et de nopales, toutes pareilles à des broderies d'argent. À l'endroit où le Sahel expire, vers l'embouchure de l'Arak, on peut apercevoir, quand le soleil le fait briller, le massif un peu blanchâtre de la Maison Carrée. Plus près du cap encore, on voit briller les étincelles à fleur d'eau. C'est un petit village maltais, nommé le village du Fort de l'Eau, et malgré la fièvre, il prospère à quelques pas de l'endroit où la flotte de Charles Quint prit terre et où son armée périt. Derrière la Maison Carrée, on devine une étendue vide et sans mouvement, un grand espace où l'azur commence, où l'air vibre continuellement. C'est l'entrée de la Mitidja. Enfin, tout à fait au fond, dans l'est, la chaîne dentelée toujours bleue des montagnes kabyles ferme par un dessin sévère ce magnifique horizon de 40 lieues. Alger se montre à l'autre extrémité du demi-cercle, au couchant, déployé de profil et descendant par échelons les degrés escarpés de sa haute colline. Quelle ville, mon cher ami! Les Arabes l'appelaient El Bahadja, la Blanche, et comme elle est encore la bien nommée. À vrai dire, elle est déshonorée, puisqu'elle est française. L'enceinte hautaine de ses remparts turcs, cette vieille ceinture ardente et brunie est brisée partout, et déjà ne la contient plus tout entière. La haute ville a perdu ses minarets, et peut-être y pourrait-on compter quelques toitures. Toutes les nations de l'Europe et du monde viennent aujourd'hui, par tous les vents, amarrer leurs navires de guerre et de commerce au pied de la grande mosquée. Bolj el Fanar n'effraie plus personne, et se pavoise du drapeau tricolore en signe de ralliement. N'importe, Alger demeure toujours la capitale et la vraie reine des Maghrébins. Elle a toujours sa casbah pour couronne, avec un cyprès, dernier vestige apparent des jardins inférieurs du Dey Hussein. Un maigre cyprès, pointant dans le ciel comme un fil sombre, mais qui de loin ressemble à une aigrette sur un turban. Quoi qu'on fasse, elle est encore et pour longtemps, j'espère, El Bahadja, c'est-à-dire la plus blanche ville peut-être de tout l'Orient. Et quand le soleil se lève pour l'éclairer, quand elle s'illumine et se colore à ce rayon vermeil qui tous les matins lui vient de la Mecque, on la croirait sortie de la veille d'un immense bloc de marbre blanc veiné de roses. La ville est flanquée de ses deux forts, le fort Babazoun qui ne l'a pas défendu, et le fort de l'empereur Bolj Moulayen Hassan qui l'a fait prendre. En avant s'étendent les faubourgs qu'heureusement je ne vois pas d'ici. Les bâtiments de la marine, jolies lignes architecturales animées de couleurs vives, se reflètent avec des miroitements infinis dans les eaux du bleu le plus tendre, et je puis dire que je ne perds pas un seul trait regrettable de cette silhouette exquise. Comme tu le vois, ce n'est pas l'étendue, ni l'air vif, ni la lumière qui manque à ce panorama. Le soleil se promène tout autour de ma cellule sans y pénétrer jamais. Il y règne une ombre inviolable. Pour vis-à-vis direct, j'ai le ciel fixe du nord-est et le rideau bleu de la haute mer. Le demi-jour azuré qui descend du ciel se répand avec égalité sur les murs blancs, sur les lambris et sur le sol parqueté de faïences à fleurs. Rien n'est plus abrité, ni plus ouvert, ni plus sonore, ni plus paisible. Il y a dans ce réduit, aussi favorable au repos qu'au travail, une sorte de tranquillité froide et blême, et comme une habitude de douceur qui me ravit profondément. J'ai presque deux jardins. L'un est petit, enclos de murs, planté de rosiers, d'orangers, de caoutchouc et d'arbres à gros feuillages qui vont me prêter de l'ombre pendant tout l'hiver, ce qui fait que par reconnaissance, au moins, j'en apprendrai les noms. Au fond, j'ai une écurie avec des chevaux et toute une compagnie de pigeons blancs et bleus qui est baraquée au-dessus de la niche du chien de garde. On ne saurait être plus propriétaire. Mon second jardin n'est à proprement parler qu'un parterre, enclavé dans un pré pâturé, que des pluies récentes ont fait un peu reverdir, et qui commence à se garnir de mauves sauvages. Un troupeau de vaches, plus décharné que les animaux du Carrel et de Berghem, s'y promène tout le jour, tondant l'herbe à mesure qu'elle pousse, et léchant la terre aux endroits stériles. Ces petites bêtes aux os saillants me rappellent les cantons pauvres de la France, et dans les dispositions d'esprit où je suis, Ce souvenir est loin de me déplaire. Quelquefois, deux ou trois chameaux noirâtres et galeux, escortés d'un petit âne non tout à fait étrange à cause de la longueur de ses poils, s'y rencontrent avec le troupeau des bêtes à cornes. L'âne se couche et s'endort. Les grands animaux bossus y passent de longues heures dans des méditations de derviches. Le berger est un jeune arabe habillé de blanc, beau de visage, et dont la chachia brille de loin parmi les cactus comme une fleur singulière de couleur écarlate. Ma chambre à coucher est au midi. De là, j'ai vu sur les collines dont le premier enflement commence à 50 mètres au-delà de mon enclos. Toute la pente est tapissée d'arbres et colorée d'un vert plus âpre à mesure que l'année décline. À peine y voit-on quelques arbres blancs, de vieux trembles dorés par l'automne et qu'on dirait couverts de sequins. Les amandiers seuls ont déjà perdu leurs feuilles. Les petites maisons construites dans ce paradis par des voluptueux sont morts. Non, sont du plus pur style arabe et d'une blancheur de lys. Peu de fenêtres, des compartiments singuliers, des chambres qu'on devine, des divans circulaires indiqués par de petits dômes et des ouvertures treillagées qui font rêver. Le ciel matinal couvre ses mystères de lueurs fraîches et vives. Les pigeons de ma basse-cour roucoulent comme pour donner la note musicale de ce tableau aimable, et de temps en temps un couple blanc passe avec bruit devant ma fenêtre et fait voler son ombre jusque à mon lit. Presque tous les jours, il y a des manœuvres de cavalerie dans l'hippodrome. L'hippodrome est un grand terrain vide et battu, sans verdure, enclos d'aloès et d'oliviers, qui commence au bout de mon parterre et se termine au rivage. On n'y voit jamais que de rares chameliers arabes qui coupent au plus court pour éviter le circuit de la route d'Alger, des enterrements maures qui se rendent au cimetière de Sid Abdelkader et des exercices de cavalerie le matin depuis l'aube jusqu'à 9 heures. Souvent, la mousqueterie me réveille. J'entends le galop des chevaux, des bruits de sabres frappant contre les étriers et la voix des commandements, claire et timbrée comme des notes de clairon. Les cavaliers manœuvrent par petits pelotons, soit au pas, soit au trot, quelquefois au galop de charge. Des lignes de tirailleurs se déploient sur la lisière du champ. Le soleil fait briller les canons fourbis et les capucines de cuivre. À chaque arme qui se rabat, on voit jaillir un filet de fumée blanche et l'odeur âcre de la poudre arrive jusque chez moi. Pendant ce temps, des officiers inoccupés se promènent à l'écart, dressant à des exercices de souplesse de jolis chevaux, plus élégants sur leur selle étroite et délicatement bridés, comme avec des fils. C'est un spectacle quotidien en dehors de mes prévisions de voyage, mais je me suis déjà fait une agréable habitude. Je n'aime pas la guerre, cependant je me sens frémir au moindre bruit qui m'en donne l'idée. La voix ferme et mâle d'un clairon me donne un battement de cœur un peu plus vif, et dans ce très petit simulacre d'escarmouche, dans l'éclair des armes, dans le mouvement des chevaux, il y a je ne sais quoi de martial et d'entraînant qui s'encadre à merveille dans les allègres tableaux des matinées d'Afrique. Au surplus, tout me charme dans ce pays, je n'ai pas à te l'apprendre. La saison est magnifique, l'étonnante beauté du ciel embellirait même un pays sans grâce. L'été continue, quoique nous soyons en novembre. L'humidité de la nuit rafraîchit la terre en attendant la pluie que rien ne fait prévoir. L'année s'achèvera sans tristesse. L'hiver viendra sans qu'on s'en aperçoive et qu'on le redoute. Pourquoi la vie humaine ne finit-elle pas comme les automnes d'Afrique, par un ciel clair avec des vents tièdes, sans décrépitude ni pressentiment? 8 novembre. Mon voisinage est des plus singuliers et peut faire imaginer de quoi se compose une colonie qui naît. De toutes les maisons qui m'entourent, il n'y en a pas deux qui se ressemblent, ni dont les habitants soient de même race. On y parle à peu près toutes les langues, et je crois qu'on y pourrait trouver tous les degrés à peu près de l'aisance et de la misère. Les industries sont incompréhensibles, les habitudes équivoques, les existences y prennent la forme d'un mystère. Mais de toutes ces demeures bizarres, la plus étrange est sans contredit une petite maison d'aspect funeste, dévastée, horriblement malpropre, et située à quelques pas de la mienne. Elle est occupée par une légion d'oiseaux de basse-cour, poulets, pigeons, pintades, jusqu'à des oies. Le matin, toute cette famille emplumée s'échappe à la fois par toutes les issues, portes et fenêtres. Les plus agiles se précipitent de l'étage en volant. La journée finie, chacun revient au gîte, et le soleil n'est pas couché que la dernière poule a regagné son perchoir. Quelquefois, cependant, un homme paraît au seuil de la maison. Il siffle pour appeler les oiseaux dispersés, en faisant un cercle avec les bras, des poignées de grains dans la prairie. Et avec des yeux bleus, des cheveux blonds, il conserve, malgré le hâle, le teint rosé d'un homme à peau blanche. Il est vêtu de toile et coiffé d'une casquette sans bord. Il fume à grosse bouffée dans une pipe allemande. Mon domestique, qui ne connaît de lui que son prénom, m'apprend qu'il est polonais et que depuis plusieurs années, il habite cette volière. Tous les jours, à la même heure, je l'aperçois, qui rentre en compagnie de gens inconnus dans le voisinage, mais pauvrement et parlant très bas. Une douce odeur de tabac mort se mêle alors aux fortes exhalaisons de ce taudis. On n'y allume jamais ni feu ni lumière, mais on y fume et l'on y cause. Puis, quand la soirée s'est écoulée dans des conversations en sourdine, la triste maison ne fait plus aucun bruit. La nuit seulement, depuis minuit jusqu'à l'aurore, on entend des coqs qui chantent au-dessus de ce rendez-vous d'exilés. Si les hôtes de ce lieu misérable n'ont pas d'autre hôtellerie sur la terre étrangère, ils sont à plaindre. Mais je me demande par quelle rencontre cruelle tous ces oiseaux sont placés sous la garde de gens qui probablement n'ont pas toujours dîné. Mustapha, 10 novembre. Il y a deux villes dans Alger, la ville française ou pour mieux dire européenne, qui occupe les bas quartiers et se prolonge aujourd'hui sans interruption jusqu'au faubourg de l'Aga, et la ville arabe, qui n'a pas dépassé la limite des murailles turques et se presse comme autrefois autour de la Casbah où les oies vont remplacer les janissaires. La France a pris de la vieille enceinte tout ce qui lui convenait, tout ce qui touchait à la marine ou commandait les portes, tout ce qui était à peu près horizontal, facile à dégager, d'un accès commode. Elle a pris la Djenina, qu'elle a rasée, et l'ancien palais des Pachas, dont elle a fait la maison de ses gouverneurs. Elle a détruit les bagnes, réparé les forts, transformé le môle, agrandi le port. Elle a créé une petite rue de Rivoli avec les rues Babazou et Babeloued et l'a peuplée comme elle a pu de contrefaçon parisienne. Elle a fait un choix dans les mosquées, laissant les unes au Coran, donnant les autres à l'Évangile. Tout ce qui était administration civile et religieuse, la magistrature et le haut clergé, elle l'a maintenu sous ses yeux et dans sa main. garantissant à chacun la liberté de sa foi religieuse et morale, elle a voulu que les tribunaux et les cultes fussent mitoyens, et pour mieux exprimer par un petit fait l'idée qui préside à sa politique, elle a permis à ses prêtres catholiques de porter la longue barbe virile des oulémas et des rabbins. Elle a coupé en deux, mais par nécessité seulement, les escaliers qui font communiquer la basse ville avec la haute. Elle a conservé les bazars au milieu des nouvelles rues marchandes, afin de mêler les industries par le contact et pour que l'exemple du travail en commun servît à tous. Des places ont été créées comme autant de centres de fusion pour les deux races. La porte Babazoun, où l'on suspendait à côté de leur tête les corps décapités, a été détruite. Les remparts sont tombés. Le marché au savon où se donnaient rendez-vous tous les mendiants de la ville est devenu la place du théâtre. Ce théâtre existe, et pour le construire, nos ingénieurs ont transformé en terrasse l'énorme rampe qui formait le glacis escarpé du rempart turc. Les anciennes limites une fois franchies, l'œuvre s'est continuée du côté de l'est, la mer lui faisant obstacle à l'ouest et au nord. De vastes faubourgs relient Alger au jardin d'Essai. Enfin, la porte neuve, Bab el-Jedid, celle-là même par laquelle l'armée de 1830 est entrée, reportée quelques 100 mètres plus loin, se nomme aujourd'hui porte d'Isli, et la statue du maréchal agronome est placée là comme un emblème définitif de victoire et de possession. Voilà pour la ville française. L'autre, on l'oublie. Ne pouvant supprimer le peuple qui l'habite, nous lui laissons tout juste de quoi se loger, c'est-à-dire le belvédère ancien élevé des anciens pirates. Il y diminue de lui-même, se serrant encore instinctivement contre son palladium inutile et regardant avec un regret inconsolable la mer qui n'est plus à lui. Entre ces deux villes si distinctes, il n'y a d'autre barrière après tant d'années que ce qui subsiste entre les races de défiance et d'antipathie. Cela suffit pour les séparer. Elles se touchent, elles se tiennent dans le plus étroit voisinage, sans pour cela se confondre, ni correspondre autrement que parce qu'elles ont de pire la boue de leurs ruisseaux et leurs vices. En bas, le peuple algérien est chez nous. En haut, nous pouvons croire encore, alors qu'il est, que nous sommes chez les Algériens. Ici, on parle toutes les langues de l'Europe. Là, on ne parle que la langue associable de l'Orient. De l'une à l'autre, et comme à moitié chemin des deux villes, circule un idiome international et barbare, appelé de ce nom de Sabir, qui lui-même est figuratif et veut dire « comprendre ». Se comprend-on? Se comprendra-t-on jamais? Je ne le crois pas. Il y a des attractions impossibles en morale comme en chimie, et toute la politique des siècles ne changera pas en loi d'amour la loi des inimitiés humaines. La paix est faite en apparence, mais à quel prix? Durera-t-elle et que produira-t-elle? Grande question qui se débat en Algérie comme ailleurs. Partout où l'Occident partage un pouce de territoire avec l'Orient, où le Nord se trouve par des compétitions fortuites, face à face avec son éternel ennemi le Midi. Nous n'empêcherons pas les fils ennemis de Jocaste de se haïr, de se combattre, de s'entretuer. Ils se sont battus dans le ventre de leur mère et la flamme de leur bûcher se partagera par une antipathie qui survivra jusque dans leurs cendres. Au fond, les Arabes, nos voisins du moins, ceux que nous appelons les nôtres, demandent peu de choses. Par malheur, ce peu de choses, nous ne saurions les leur accorder. Ils demandent l'intégrité et la tranquillité de leur dernier asile, où qu'ils soient, et si petits qu'ils soient, dans les villes comme dans les campagnes, même à la condition d'en payer le loyer, comme ils ont fait depuis 3 siècles, et tant bien que mal, entre les Turcs qui ne nous valaient pas comme propriétaires. Ils voudraient n'être pas gênés, coudoyés, surveillés, vivre à leur guise, se conduire à leur fantaisie, faire en tout ce que faisait leur père, posséder sans qu'on cadastre leurs terres, bâtir sans qu'on aligne leurs rues, voyager sans qu'on observe leurs démarches, naître sans qu'on les enregistre, et grandir sans qu'on les vaccine, et mourir sans formalité. Comme indemnité de ce que la civilisation leur a pris, ils revendiquent le droit d'être nus, d'être indigents, de mendier aux portes, de coucher à la belle étoile, de déserter les marchés, de laisser les champs en friche, de mépriser le sol dont on les a dépossédés, et de fuir une terre qui ne les a pas protégés. Et ceux qui possèdent cachent et thésaurisent. Ceux qui n'ont plus rien se réfugient dans leur misère. Et de tous les droits qu'ils ont perdus, celui qui leur tient le plus au cœur, peut-être, c'est le droit de se résigner et l'indépendance de leur pauvreté. Je me souviens un soir, pendant un séjour que je fis à Blida, d'avoir rencontré près de la porte d'Alger un arabe qui faisait ses dispositions pour passer la nuit. Il était vieux, fort misérable, mal couvert de haillons qui le cachaient à peine, harassé comme s'il eût fait une longue étape, et il rôdait autour du rempart, évitant d'être vu par les sentinelles et cherchant parmi les cailloux de la route un petit coin pour s'y coucher. Dès qu'il m'aperçut, il se leva et me demanda, comme une aumône, la permission de rester là. Ben, tu ferais mieux d'entrer dans la ville, lui dis-je, et d'aller loger au fondouk. Il me regarda sans me répondre, prit son bâton qu'il avait déjà posé par terre, renoua sa sacoche autour de ses reins et s'éloigna dans un silence farouche. Je le rappelai, mais en vain. Il refusait une hospitalité offerte dans nos murs et ma pitié le faisait fuir. Ce que ces proscrits volontaires détestent en nous, car ils nous détestent. Ce n'est donc pas notre administration plus équitable que celle des Turcs, notre justice moins vénale, notre religion tolérante envers la leur. Ce n'est pas notre industrie dont ils pourraient profiter, notre commerce qui leur offre des moyens d'échange. Ce n'est pas non plus l'autorité, car ils ont la longue habitude de la soumission. La force ne leur a jamais déplu, et comme les enfants, ils accepteraient l'obéissance, sauf à désobéir souvent. Ce qu'ils détestent, c'est notre voisinage, c'est-à-dire nous-mêmes. Ce sont nos allures, nos coutumes, notre caractère, notre génie. Ils redoutent jusqu'à nos bienfaits. Ne pouvant nous exterminer, ils nous subissent, et ne pouvant nous fuir, ils nous évitent. Leur principe, leur maxime, leur méthode est de se taire, de disparaître le plus possible, de se faire oublier. On a donc oublié la Haute-Ville, et j'y reviens après ce long détour. En devenant inutile, elle échappe au projet qu'on aurait eu de la rendre française, et la voilà sauvée des démolisseurs et des architectes. Le vieux Alger n'est pas détruit. À considérer les choses au point de vue pittoresque, ce qu'on avait de mieux à faire, c'était de respecter ce dernier monument de l'architecture et de l'existence arabe, le seul peut-être avec Constantine qui subsiste en Algérie, non pas intact, mais reconnaissable. C'est l'ancienne porte de Bab el-Jadid qui marque à peu près d'une façon visible le point de séparation des deux villes. Il y a précisément à cet endroit une petite place solitaire, sorte de terrain neutre où les gamins français fraternisent avec les enfants maures, où des juifs, les plus conciliants de tous les hommes en matière de nationalité, vendent de la ferraille, le vieux clou. Ici aboutissent les rues de la Casbah et celles qui descendent vers le port. Ici expirent les coutumes, les industries, les bruits, jusqu'aux odeurs des deux mondes. À droite, les rues plongeantes mènent en Europe. Tu te rappelles ces quartiers pauvres, bruyants et mesquins, mal habités, mal famés, avec des volets verts, des enseignes ridicules et des modes inconnus. Ces rues suspectes, peuplées de maisons suspectes, de matelots qui rôdent, d'industriels sans industrie, d'agents de police en observation. Ces bruits cosmopolites, et quel bruit ! Émigrants qui pérorent dans des patois violents, juifs qui se querellent, femmes qui jurent, fruitiers espagnols qui chantent des chansons obscènes en s'accompagnant sur la guitare de Blanca. En résumé, on retrouve ici les habitudes triviales, les mœurs bâtardes, la parodie de nos petites bourgades de province, avec la dépravation des grandes villes, la misère mal portée, l'indigence à l'état de vice, et le vice à l'état de laideur. À l'opposite de cette colonie sans nom, on voit s'ouvrir discrètement les quartiers recueillis du vieux Alger et monter des rues bizarres comme autant d'escaliers mystérieux qui conduiraient au silence. Mais la transition est si rapide, le changement de lieu est si complet, que tout d'abord on aperçoit du peuple arabe les meilleurs côtés, les plus beaux, ceux qui font précisément contraste avec le triste échantillon de notre état social. Ce peuple a pour lui un privilège unique et qui malgré tout le grandit, c'est qu'il échappe au ridicule. Il est pauvre sans être indigent, il est sordide sans trivialité. Sa malpropreté touche au grandiose. Ses mendiants sont devenus épiques, il y a toujours en lui du Lazare et du Job. Il est grave, il est violent, mais jamais il n'est ni bête ni grossier. Toujours pittoresque dans le bon sens du mot, artiste sans en donner la preuve autrement que par sa tenue, naturellement, et par je ne sais quel instinct supérieur, il relève jusqu'à ses défauts et prête à ses petitesses l'énergie des difformités. Ses passions, qui sont à peu près les nôtres, ont un tour plus grand qui les rend presque intéressantes, même quand elles sont coupables. Il est effréné dans ses mœurs, mais il n'a pas de cabaret, ce qui purge au moins ses débauches de l'odeur du vin. Il sait se taire, autre qualité rare que nous n'avons pas. Il peut par là se passer l'esprit. La parole est d'argent, le silence est d'or, c'est une de ses maximes. Il a la dignité naturelle du corps, le sérieux du langage, la solennité du salut, le courage absolu dans sa dévotion. Il est sauvage, inculte, ignorant, mais en revanche, il touche aux deux extrêmes de l'esprit humain. L'enfance et le génie, par une faculté sans pareille, l'amour du merveilleux. Enfin, ses dons extérieurs font de lui un type accompli de la beauté humaine et pour ses yeux exigeants, c'est bien quelque chose. Tous ses attributs, il les garde. Toutes ses qualités, il les conserve, sans en rien perdre avec une force de résistance ou d'inertie qui, de toutes les forces, est la plus invincible. On en peut juger ici, où son obstination n'a pas faibli plus qu'ailleurs, quoiqu'il eût toutes les raisons possibles d'être policé malgré lui-même, d'être usé par les contacts et de s'effacer. Il a tout retenu comme au premier jour. Ses usages, ses superstitions, son costume et la mise en scène à peu près complète de cette existence opiniâtre dans la religion du passé. On pourra le déposséder entièrement, l'expulser de son dernier refuge, sans obtenir de lui quoi que ce soit qui ressemble à l'abandon de lui-même. On l'anéantira plutôt que de le faire abdiquer. Je le répète, il disparaîtra avant de se démêler à nous. En attendant, cerné de toutes parts, serré de près, j'allais dire étranglé par une colonie envahissante, par des casernes et des corps de garde dont il n'a d'ailleurs qu'un vague souci, mais éloigné volontairement du cours réel des choses, et rebelle à tout progrès, indifférent même aux destinées qu'on lui prépare, aussi libre néanmoins que peut l'être un peuple exproprié, sans commerce, presque sans industrie, il subsiste, en vertu de son immobilité même, et dans un état voisin de la ruine, sans qu'on puisse imaginer s'il désespère ou s'il attend. Quel qu'il soit, le sentiment vrai qui se cache sous la profonde impassibilité de ces quelques milliers d'hommes isolés, désormais parmi nous, désarmés, et qui n'existent plus que par tolérance, il leur reste encore un moyen de défense insaisissable. Ils sont patients, et la patience arabe est une arme de trempe extraordinaire, dont le secret leur appartient comme celui de leur acier. Ils sont donc là, tels qu'on les a vus de tout temps, dans leurs rues sombres, fuyant le soleil, tenant plus que jamais leur maison close, négligeant le trafic, économisant leurs besoins, s'environnant de solitude par précaution contre la foule, se prémunissant par le silence contre les envahissements d'un fléau aussi grand pour eux que tous les autres, les importuns. Leur ville, dont la construction même est le plus significatif des emblèmes, leur ville blanche, les abrite, à peu près comme le burnous national les habille, d'une enveloppe uniforme et grossière. Des rues en forme de défilé, obscures et fréquemment voûtées, des maisons sans fenêtres, des portes basses, des échoppes de la plus pauvre apparence, des marchandises empilées pêle-mêle, comme si le marchand avait peur de les montrer, des industries presque sans outils, certains petits commerces risibles, quelquefois des richesses au fond d'un chausson, pas de jardin, pas de verdure, à peine un pied mourant de vigne ou de figuier qui croupit dans les décombres des carrefours, des mosquées qu'on ne voit pas, des bains où l'on va mystérieusement, une seule masse compacte et confuse de maçonnerie, bâtie comme un sépulcre où la vie se dérobe et où la gaieté craindrait de se faire entendre. Telle est l'étrange cité où vit, ou s'éteint plutôt, un peuple qui ne fut jamais aussi grand qu'on l'a cru, mais qui fut riche, actif, entreprenant. J'ai parlé de sépulcre et j'ai dit vrai. L'arabe croit vivre dans sa ville blanche. Il s'y enterre, enseveli dans une inaction qui l'épuise, accablé de ce silence même qui le charme, enveloppé de réticence et mourant de langueur. Tu sais à quoi se réduit ce qu'on aperçoit de sa vie publique, ce que j'appelle par analogie son industrie ou son commerce. Oh, la statistique est ici des plus simples. Des brodeurs sur étoffe, des cordonniers, des marchands de chaux, des bijoutiers du dernier ordre, des grainetiers vendant à la fois des épices et du tabac, des fruitiers approvisionnés suivant la saison d'orange ou de pastèque, de banane ou d'artichaut, quelques laiteries, des barbiers surtout, des boulangeries banales et des cafés. Cette énumération qui n'est pas complète, donne-moi la mesure exacte, assez exacte, des besoins. Elle définit mieux que toutes les redites les causes matérielles de cette tranquillité sans exemple, où ce peuple se complaît, et c'est la seule chose qui m'importe en ce récit. Quant à la vie privée, elle est comme dans tout l'Orient, protégée par des murs impénétrables. Il en est des maisons particulières comme des boutiques, même apparence discrète et même incurie à l'extérieur. Les portes ne s'ouvrent jamais qu'à demi et retombent d'elles-mêmes par leur propre poids. Tout est ombrageux dans ces constructions singulières, admirablement complices des cachotteries du maître. Les fenêtres ont des barreaux et toutes sortes de précautions sont prises aussi bien contre les indiscrétions du dehors que contre les curiosités du dedans. Derrière ces clôtures taciturnes, ces portes massives comme des portes de citadelle, ces guichets barricadés avec du fer, il y a des choses qu'on ignore. Il y a les deux grands mystères de ce pays-ci, la fortune mobilière et les femmes. De l'une et de l'autre, on ne connaît presque rien. L'argent circule à peine, les femmes sortent peu. L'argent ne se montre guère que pour passer d'une main arabe dans une main arabe, pour se convertir en petite consommation ou en bijoux. Les femmes ne sortent que voilées, et leur rendez-vous le plus habituel est un lieu d'asile inviolable. Ce sont les bains. Des rideaux de mousseline légère qui se soulèvent au vent de la rue, des fleurs soignées dans un pot de faïence de forme bizarre. Voilà à peu près tout ce qu'on aperçoit de ces gynécées qui nous font rêver. On entend sortir de ces retraites des bruits qui ne sont plus des bruits, ou des chuchotements qu'on prendrait pour des soupirs. Tantôt, c'est une voix qui parle à travers une ouverture cachée ou qui descend de la terrasse et qui semble voltiger au-dessus de la rue comme la voix d'un oiseau invisible. Tantôt, la plainte d'un enfant qui se lamente dans une langue déjà singulière et dont le balbutiement mêlé de pleurs n'a plus de signification pour une oreille étrangère. Ou bien, c'est un son d'instrument, le bruit mat des darboukas qui marque avec lenteur la mesure d'un chant qu'on n'entend pas et dont la note unique et scandée comme rime sourde semble accompagner la mélodie d'un rêve. La captivité se console ainsi en rêvant d'une liberté qu'elle n'a jamais eue et qu'elle ne peut comprendre. Il y a un proverbe arabe qui dit « Quand la femme a vu l'autre, elle ne veut plus de son mari ». Les Arabes ont un livre de la sagesse à leur usage, et toute la politique conjugale est réglée sur ce précepte. Il est donc bien convenu que, délicieuse ou non pour ceux qui l'habitent, luxueuse ou pauvre, une maison d'Arabe est une prison à forte serrure et fermée comme un coffre-fort. Le maître avare en a la clé. Il y renferme ensemble tous ses secrets et nul ne le sait. Nul ne peut dire ce qu'il possède, ni combien, ni quel en est le prix. Beaucoup plus tolérants que les Arabes, les Juifs et les Nègres permettent à leurs femmes de sortir sans voile. Les Juifs sont belles. À l'inverse des Mauresques, on les voit partout, aux fontaines, sur le seuil des portes, devant les boutiques, ou réunies autour des boulangeries banales, à l'heure où les galettes sont tirées du four. Elles s'en vont alors, soit avec leurs cruches remplies, soit avec leurs planches au pain, traînant leurs pieds nus dans des sandales sans quartier, leurs longs corps serrés dans des fourreaux de soie de couleur sombre, et portant toutes comme des veuves un bandeau noir sur leurs cheveux nattés. Elles marchent, le visage au vent, et ces femmes en robe collante, aux joues découvertes, aux beaux yeux fixes, accoutumées aux hardiesses du regard, semblent toutes singulières dans ce monde universellement voilé. Grandes et bien faites, elles ont le port languissant, les traits réguliers, peut-être un peu fades, les bras gros et rouges, assez propres d'ailleurs, mais avec des talons sales. Il faut bien que leurs admirateurs, qui sont si nombreux, pardonnent quelque chose à cette infirmité des Juifs du bas peuple. Heureuse encore quand leur pâle propreté n'apparaît qu'au talon, comme l'humanité d'Achille. Deux petites filles mal tenues, dans des accoutrements plus somptueux que choisis, accompagnent ces matrones minces qu'on prendrait pour leur sœur aînée. La peau rose de ces enfants ne blêmit pas l'action de la chaleur comme celle des petits maures. Non, leurs joues s'empourprent aisément, et comme une forêt de cheveux roux accompagne ordinairement le teint de ses visages ou le sang fleuri, ses têtes enluminées, coiffées d'une sorte de broussaille ardente, sont d'un effet qu'on imagine aisément, surtout quand le soleil les enflamme. Quant aux négresses, ce sont, comme les nègres, des êtres à part. Elles arpentent les rues lestement d'un pas viril, ne touchant jamais sous leur charge, et marchant avec l'aplomb propre aux gens dont l'allure est aisée, le geste libre et le cœur à l'abri des tristesses. Elles ont beaucoup de gorge, le buste long, les reins énormes. La nature les a destinées à leur double fonction de nourrice et de bête de somme. « Ânesse le jour, femme la nuit », dit un proverbe local qui s'applique aux négresses aussi justement qu'à la femme arabe. Leur maintien, composé d'un dandinement difficile à décrire, met encore en relief la robuste opulence de leur forme, et leur haïck quadrillé de blanc flotte comme un voile nuptial autour de ces grands corps immodestes. La ville arabe nous offre donc à peu près les mœurs, les habitudes extérieures ou domestiques d'autrefois. C'est à peu près l'Alger des Turcs, réduit seulement, appauvri et n'ayant plus que le simulacre d'un état social. Quand on entre d'emblée dans cette ville, quand on y pénètre, comme je le fais habituellement, par une brèche ouverte à mi-côte et sans passer par les quartiers francs, quand on oublie l'histoire au milieu de la bizarrerie du présent et les ruines pour ne considérer que ce qui survit, on peut encore se procurer des illusions de quelques heures. Et ces illusions me suffisent. N'exista-t-il plus qu'un arabe, on pourrait, d'après l'individu, retrouver le caractère physique et moral du peuple. Ne resta-t-il qu'une rue de cette ville originale, même en Orient, on pourrait, à la rigueur, reconstituer l'Alger d'Homère et du Deus Saint. L'Alger politique est plus difficile à recomposer. C'est un fantôme turc qui s'est évanoui avec les Turcs, et dont l'existence, trop réelle pourtant, semblait improbable, même de leur vivant. J'ai fait aujourd'hui ma visite ordinaire et presque quotidienne aux vieux Alger. En pareil cas, je ne m'occupe ni d'histoire ni d'archéologie. J'y vais très naïvement, comme au spectacle. Peu m'importe que la pièce soit vieillie, pourvu qu'elle m'intéresse encore et me paraisse nouvelle. D'ailleurs, je ne suis pas difficile en fait de nouveautés. Ce que je n'ai pas pu voir par moi-même est pour moi l'inconnu, et si j'en parle innocemment, comme on parlerait d'une découverte, c'est que, à tort ou à raison, j'estime qu'en fait d'art, il n'y a pas de redites à craindre. Tout est vieux et tout est nouveau. Les choses changent avec le point de vue. Il y a de définitif et d'absolu que les lois du beau. Heureusement pour nous, l'art n'épuise rien. Il transforme tout ce qu'il touche. Il ajoute aux choses plus encore qu'il ne leur enlève. Il renouvellerait, plutôt que de l'épuiser, la source intarissable des idées. Le jour où paraît une œuvre d'art, fut-elle accomplie, chacun peut dire, avec l'ambition de poursuivre la sienne et la certitude de ne répéter personne, que cette œuvre est à refaire, ce qui est très encourageant pour l'esprit humain. Il en est de nos problèmes d'art, comme de toutes choses. Combien de vérités aussi âgées que le monde, et qui, si Dieu ne nous aide, seront encore à définir dans 1000 ans. Voici donc la promenade que j'ai faite aujourd'hui. D'abord, je suis parti de ma maison, que tu connais à peine, et j'ai suivi une route que tu connais mal, en voiturin, selon le voisinage du pays, car on aurait tort de se refuser un moyen de transport, moins commode, il est vrai, que la promenade à pied, mais de beaucoup plus expéditif et plus gai, surtout quand on voyage en compagnie. Le voiturin d'Alger est une voiture à claire-voie, faite exprès pour le midi, qui vous abrite à peu près comme un parasol et vous évente avec des rideaux toujours agités. Ces carrioles, aujourd'hui très nombreuses, surtout dans la banlieue que j'habite, sont aussi peu suspendues que possible et vont horriblement vite et, chose incroyable, ne versent jamais. Ce sont de petits omnibus aux coffres larges, assis sur des roues grêles, menés par de petites rosses barbes à toutes crins, flanquées, haletantes, ayant la maigreur, la coupe aiguë et la vive allure des hirondelles. On les appelle des corricolo. Jamais l'on ne fut plus exact, car elles vont toujours au galop, courant sur un lit de poussière, volant comme un char mythologique au milieu d'un nuage, avec un bruit aérien tout particulier de grelots, de claquements de vitres et de coups de fouet. On dirait que chaque voiture porte un message. Que le cocher soit provençal, espagnol ou maure, la vitesse est la même. La seule chose qui varie, ce sont les procédés pour l'obtenir. Le provençal aiguillonne son attelage avec des blasphèmes. L'espagnol le harcèle à coups de tanière et le maure l'épouvante avec un cri de gosier effrayant. Lucrative ou non, cette industrie pleine de verve a pour effet le plus certain de mettre également toutes les voituriers de bonne humeur. C'était Slimane en personne qui me conduisait dans mon voiturin peint en jaune clair et appelé la gazelle. Slimane est un jeune maure qui se civilise. Il parle français, regarde effrontément les étrangères et s'arrête au cabaret pour y boire du vin. Il était frère rasé, dispo, joyeux, tout habillé des couleurs de l'aurore, culotte blanche, veste gris perle, écharpe rose, et portait comme une femme au bal une fleur de grenadier piquée près de l'oreille. Menant son équipage d'une main, de l'autre il fumait une cigarette, et chaque fois qu'il ouvrait la bouche pour exciter ses bêtes, des bouffées odorantes lui sortaient des lèvres. J'avais pour voisin de droite un vieux maure à figure courtoise qui rentrait honnêtement de son jardin avec une récolte d'oignons et d'oranges mêlées confusément dans un cabas de paille. En face de moi, un nègre maçon, éclaboussé de chaux vives, se dandinait au chaos des roues, souriant à des idées joyeuses qui lui remontait à tout propos dans l'esprit. Au fond, trois mauresques de mine évaporée babillaient sous leurs masques blancs. Elles sentaient le musc et la pâtisserie, et leur haïque s'échappait par les fenêtres comme de légers pavillons. Ainsi attelé, ainsi conduit, ainsi accompagné, par un beau temps, par un beau soleil, l'air matinal entrant à pleine portière, égayé moi-même et comme enivré par la sensation de la vitesse, emporté dans un tourbillon mêlé de lumière, de poudre ardente et de bruit, j'aurais pu me croire entraîné vers la ville la plus vivante et la plus joyeuse de la terre. La route est sans ombre et tout ce qui la voisine est poudré à blanc. Les deux berges sont garnies d'aloès, qui n'ont plus ni forme animée ni couleur, et d'oliviers plus pâles que des saules. L'extrémité se perd dans une perspective noyée de blancheur et de brume. Partout où quelque chose remue sur cette longue traînée de poussière, rendue plus subtile encore après 6 mois de sécheresse, on voit s'élever des nuages et, quand le moindre vent passe sur la campagne, la tête alourdie des vieux arbres semble se dissoudre en fumée. Quelquefois, on côtoie la mer. Plus loin, c'est le faubourg de la Ga, bordé de restaurants, de buvettes et d'auberges, qui forment depuis le champ de manœuvre jusqu'à Alger, et comme pour scandaliser la ville sombre où l'on buvait de l'eau, une sorte d'avenue sacrilège, consacré surtout à la vendange. Puis des terrains vagues où bivouaquent tout le jour des bataillons d'âniers avec leurs ânes, venus les uns et les autres des tribus, et non pas des plus riches. Enfin, un endroit désolé, consumé de soleil, calciné même en plein hiver. Pareil pour la couleur et pour le désordre, un vaste foyer dont il ne resterait plus que les cendres. Au fond, se cache une petite fontaine en maçonnerie blanche, tandis que près de la route, accroupi, quelque temps qu'il fasse, sur un tertre nu, des négresses, marchandes de galettes, attendent, rangées en ligne dans une tenue sinistre, la chance impossible d'un ânier qui voudrait manger. À droite, le vieux fort turc, qui sert aujourd'hui de pénitencier militaire, s'élève au milieu d'un fourré d'aloès, pareil à des faisceaux de sabres brisés, et tourne du côté de la mer ses embrasures armées. La mer, qui, de distance en distance, continue d'apparaître et splendide, d'un azur doux, moiré de largeur et couleur de nacre. Des chevaux s'y baignent, la queue en avant, au vent, la tête haute, les grains abondants et peignés comme des cheveux de femme. Ils entrent dans l'eau jusqu'au ventre et se cabrent sous leurs palefreniers. À l'horizon, des voiles maltaises découpent leurs triangles blancs, pareil aux ailes relevées en ciseaux d'un goéland qui pêche. Un peu plus loin commence un second faubourg, ou pour mieux dire, l'Alger moderne. Grande rue droite avec des maisons à 6 étages, quelque chose comme un tronçon de rue des Batignolles. Un palmier subsiste en cet endroit, tu le connais, il est toujours là, le pied muré dans un bloc de plâtre qui le déshonore et ne l'empêchera pas de mourir. Son large éventail ne reverdit plus, les noires fumées tourbillonnent autour de sa tête stérile, la pluie froide des durs hivers crispe son feuillage hérissé, il ressemble au peuple qu'il a planté, comme lui il est morne, mais il dure, peut-être lui survivra-t-il. Le mouvement augmente et fait pressentir une ville. Voici le bureau arabe, ancienne maison turque, toute blanche, très pittoresque, autour de laquelle il y a toujours un va-et-vient de cavaliers, de messagers avec leurs gibecières en sautoir, de chaouches armées de cannes, de spahis en livrée rouge. En face, c'est une boucherie, avec de maigres animaux parqués le long du mur et liés par les cornes à des anneaux. La porte est ouverte et permet d'entendre des cris d'agonie. Des égorgeurs à mine farouche, le couteau dans les dents, saisissent des moutons pantelants et les emportent avec des gestes de Médée. Ce sont les Mesabites, car le désert fournit à la fois les meilleurs moutons et les meilleurs bouchers. Ils sont très noirs, sans être nègres, et leur peau foncée, se teignant en violet, dans ces rouges ablutions de l'abattoir, on les dirait barbouillés de lit plutôt que de sang. La route ici, presque impossible à décrire, s'encombre à ce point qu'on aurait de la peine même à noter les choses qui passent. Ce sont des promeneurs à pied, des gens à cheval, des chariots militaires chargés de fourrage, des fourgons chargés de munitions marchant sous escorte, des mendiants couvrant les trottoirs. Une foule paisible, ce sont les Arabes, une foule turbulente, ce sont les Européens. Par-ci, par-là, des chameaux que ce tumulte effraie et qui regimbent, des processions de femmes allant à la mer, et des légions d'enfants de toutes races, dont le plaisir, ici comme ailleurs, est de circuler dans les cohues. Et au beau milieu de ce carrefour, et sans se désunir, défilent à chaque minute des troupeaux de petits ânes qu'on emploie à charrier du sable, les uns rentrant en ville avec leurs paniers pleins, les autres revenant les paniers vides et courant à la sablière. Les conducteurs, biscris pour la plupart, portent la calotte de feutre, la jaquette flottante et le tablier de cuir ou le saharan des portefaix. C'est une race bonne à connaître car on la retrouve partout, avec des habitudes qui lui sont propres. Ces âniers ont aussi leur cri, un cri du gosier, bizarre, aigu, imité des bêtes fauves, et combiné pour accélérer par la frayeur le pas docile et régulier de leur convoi. Quand les ânes sont chargés, ils suivent à pied, prenant le trot quand ceux-ci trottent, mais au retour, ils enfourchent leurs bêtes et se font impitoyablement porter par ces petites montures de la grosseur d'un grand mouton. Assis tout à fait sur la croupe, leurs bâtons piqués dans une écorchure de la peau, plaie qu'ils enveniment sans cesse pour la rendre plus sensible, très fiers et très droits, comme s'ils maniaient les chevaux de prix, et serrant entre leurs jambes trop longues l'échine endolorie du baudet, ils n'ont qu'à poser leurs talons qui touchent à terre ou à le relever pour se retrouver alternativement à pied ou monté. Ils se délassent ainsi en écrasant sous leur taille le petit animal courageux, et au moindre cri, au moindre signal, toute la bande s'élance à la fois en droite ligne, les oreilles en arrière, avec ce bruit sec et précipité d'un troupeau de moutons. L'entrée d'Alger, qui s'appelle Babazoun en souvenir de la porte rasée depuis longtemps, se montre enfin très confusément à travers un nuage de poussière enflammé par le soleil direct du matin. Arrivé là, on n'a plus qu'à mettre pied à terre, qu'à régler le prix de sa place, qui est de 5 sous, monnaie de France, et qu'à monter jusqu'à l'ancienne Babel Djid. On a en fait en quelques minutes un long voyage, car aussitôt après, on se trouve à 200 lieues d'Europe. Il était 10 heures à peu près quand ce matin-là j'atteignis le but de mes promenades habituelles. Le soleil montait, l'ombre insensiblement se retirait du fond des rues, et l'obscurité qui s'amassait sous les voûtes, la profondeur assombrie des boutiques, le pavé noir qui reposait encore en attendant midi dans des douceurs nocturnes, faisait éclater la lumière à tous les endroits que le soleil frappait, tandis qu'au-dessus des couloirs, et collé pour ainsi dire à l'angle éblouissant des terrasses, le ciel s'étendait comme un rideau d'un violet foncé, sans tache et presque sans transparence. L'heure était délicieuse. Les ouvriers travaillaient comme les maures travaillent, paisiblement, assis devant leurs établis. Les mezabites en gandoura, rayés, sommeillaient à l'abri de leurs voiles. Ceux qui n'avaient rien à faire, et le nombre en est toujours très grand, fumaient au seuil des cafés. On entendait des bruits charmants, des voix d'enfants qui psalmodiaient dans les écoles publiques, des rossignols captifs qui chantaient comme une matinée de mai, des fontaines qui ruisselaient dans des vases aux parois sonores. Je cheminais lentement dans ce dédale, allant d'une impasse à l'autre et m'arrêtant de préférence à certains lieux où règne un silence encore plus inquiétant qu'ailleurs. Voilà, pardonne-moi une fois pour toutes ce mot de silence qui revient dans ces lettres beaucoup plus souvent que je ne voudrais. Il n'y a malheureusement qu'un seul mot dans notre langue pour exprimer à tous les degrés imaginables le fait très complexe et tout à fait local de la douceur, de la faiblesse et de l'absence totale des bruits. Entre 11h et midi, c'est-à-dire à l'heure où je suis à peu près certain d'y trouver mes amis réunis, je parle ici de mes amis algériens, j'arrivais au carrefour le Si Mohammed Cherif. C'est un lieu que je t'ai fait connaître à ton dernier voyage, et c'est là, mon ami, que je veux encore te conduire.